On a parlé de la capsule ARD, et puis là, je vais. Bon, ça fait toujours partie des projets futurs, mais il y a l'actualité astronomique, et il y a justement les instruments qui sont chargés de détecter tout ça, qui ont trouvé donc une bouffée de rayons gamma d'un mini Big Bang qui aurait été détecté en décembre. Donc, de quoi s'agit-il au juste de...
Il s'agit effectivement d'une observation tout à fait étonnante. Depuis que l'on envoie des engins dans l'espace, c'est surtout des engins militaires d'ailleurs, qui a été utilisé pour détecter les explosions atomiques, qu'elles soient américaines ou soviétiques, on s'est aperçu qu'il existe dans le ciel des bouffées de rayonnement gamma. Le rayonnement gamma, c'est un rayonnement extrêmement puissant qui provient de réactions non seulement à l'intérieur des atomes, mais dans les noyaux des atomes. Donc c'est de la lumière très très énergétique, comme on dit. Donc ce rayonnement gamma, on ne savait pas du tout d'où il venait. C'était un mystère qui est resté un mystère depuis que l'astronomie spatiale existe. Je dis spatiale parce que pour regarder le rayonnement gamma, il faut aller dans l'espace. Ça ne traverse pas l'atmosphère de la Terre, donc il faut être en orbite très loin de notre planète. Et puis très, très récemment, un satellite qui d'ailleurs était relativement modeste, a pu observer dans le ciel un rayonnement gamma qui a été suivi par une émission de rayons X et de rayonnement visible. Et c'est là que l'astronomie moderne a fait des progrès considérables, parce qu'un satellite observe quelque chose d'anormal dans le ciel, immédiatement on a pu demander à tous les astronomes au sol ou qui étaient en train de mettre en œuvre d'autres satellites, comme le télescope Hubble, de regarder dans cette région du ciel pour voir s'il ne se passait pas quelque chose. Car ce rayonnement gamma, ces bouffées de rayonnement gamma, les bursts comme on les appelle, n'avaient jamais pu être associés à aucune étoile, à aucune galaxie. Et finalement, on s'est aperçu que ces objets qu'on croyait au départ trouver leur source dans notre propre galaxie, en fait se trouvaient à des milliards d'années-lumière de nous. Donc ce sont des phénomènes cosmologiques qui se passent très très loin. Alors celui dont vous parliez tout à l'heure, du mois de décembre, il avait la particularité qu'il était encore plus puissant, 100 fois plus puissant que ceux qu'on avait vus jusqu'à présent. Alors, du coup, l'explication qui avait été donnée à ces phénomène tout à fait puissant et extraordinaire, devenait encore plus intéressante à confirmer. Alors, la première explication qui a été donnée, c'est que ce rayonnement gamma provient l'impact de deux objets extrêmement lourds l'un contre l'autre. Et les objets les plus lourds que l'on connaisse dans l'univers et que l'on peut imaginer, ce sont les noyaux des étoiles lorsqu'elles ont terminé leur vie et qu'elles s'écrasent complètement sur elles-mêmes. Qu'un centimètre cube de matière stellaire pèse plusieurs centaines de tonnes dans ce genre de magma de neutrons, et c'est pour ça qu'on appelle ces étoiles-là des étoiles à neutrons. Et lorsque une étoile tombe sur une étoile à neutrons, eh bien ça fait beaucoup de neutrons, mais ça fait aussi beaucoup de lumière, et en particulier de la lumière très énergétique, rayonnement gamma. Mais bon, tout ça, ça colle à peu près, et on avait trouvé une bonne explication, mais là, celui-là, il faisait quand même, il était 100 fois plus puissant que les autres. Alors on s'est dit, c'est pas des étoiles à neutrons qu'on a, ce sont sans doute des trous noirs. Le trou noir, c'est encore plus massif que l'étoile à neutrons, c'est vraiment la concentration de masse la plus époustouflante que l'on puisse y trouver dans l'univers. Et lorsque deux trous noirs rentrent l'un dans l'autre, alors là c'est vraiment de la science-fiction, parce qu'on n'a jamais regardé de trous noirs, on n'a jamais vu, on voit seulement leurs effets indirects, et imaginez qu'il y en ait deux qui se rentrent l'un dans l'autre, alors ça c'est quand même un peu fou, mais c'est la seule explication qu'on ait trouvée à ce phénomène. Alors, on attend d'en pouvoir observer d'autres, aussi énergétiques que celui-ci, pour pouvoir décider si oui ou non on a la bonne explication. Je suis, moi, personnellement, tout à fait heureux que les Européens aient été à la tête de ces découvertes, puisque le satellite qui a observé ces phénomènes, c'est un satellite italo-néerlandais, et que le satellite qui sera encore plus sensible que celui-ci, qui sera lancé en 2001, c'est un satellite de l'Europe, un satellite de l'Agence spatiale européenne, qui sera le plus puissant jamais lancé dans l'espace pour regarder ces phénomènes.
D'accord. Toujours sur ce sujet-là, parmi nos invités, est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions ou réagir par rapport au projet futur ?
Je crois qu'on a eu des explications un peu plus claires.
C'est vrai.
Je voudrais vous dire quelque chose, quelque chose de plus. Alors, parce qu'on a parlé, c'est peut-être le retour permanent, le retour éternel, le retour perpétuel. Au début de l'émission, on a parlé du Big Bang. Et on a dit qu'on ne pouvait pas le voir, ce Big Bang, parce que la lumière qui en est issue, elle a déjà 300 000 années par rapport à la date du Big Bang. Donc le Big Bang est déjà 300 000 ans d'âge quand la lumière qu'il a émise parvient à s'échapper du magma d'atomes et d'électrons qui entourent ce Big Bang. Et on vient de trouver un moyen de regarder, entre guillemets, parce qu'on n'a pas Dieu pour le voir. On n'a même pas des télescopes comme les télescopes dont on parlait tout à l'heure pour le voir. Mais on a trouvé un moyen de trouver des signaux qui sont issus du Big Bang et qui traversent l'univers sans problème. Alors que la lumière, il lui a fallu 300 000 ans pour pouvoir arriver à traverser cette matière du Big Bang. Là, on a des ondes qui sont sorties de l'esprit de ce fameux génie moustachu qui tire la langue sur beaucoup de photos. Je veux parler d'Albert Einstein, le père de la théorie de la relativité générale, et qui a très rapidement conclu à l'existence de ce qu'on appelle des ondes de gravité, des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire des modifications de l'espace dans lesquelles, à certains endroits, eh bien, le poids des choses varie de façon importante, et une onde gravitationnelle qui passe à travers un corps ou un ensemble d'éléments induit des perturbations. Quand je parle et que je lève mon bras, j'émets des ondes gravitationnelles. Mais je suis modeste, elles sont très petites, elles n'ont aucun effet. Mais des trous noirs qui gravitent les uns autour des autres, ça émet des ondes gravitationnelles. Et un Big Bang, alors là, ça en émet beaucoup. Ça émet même un fond d'ondes gravitationnelles cosmologiques, comme il y a eu un fond cosmologique dont je parlais tout à l'heure, le rayonnement de 2,7 degrés. Alors, pour regarder ce fond d'ondes gravitationnelles qui sont issues du Big Bang, il faut des grandes antennes, c'est des antennes dont les bras font à peu près 5 millions de kilomètres. Alors ce ne sont pas vraiment des bras, ce sont des satellites qui sont situés les uns par rapport aux autres à 5 millions de kilomètres. Et lorsqu'une onde gravitationnelle passe, eh bien la distance de ces satellites varie. Elle ne varie pas beaucoup, elle varie d'à peu près de la taille d'un atome d'hydrogène. Alors vous vous rendez compte, il faut mesurer cette variation sur des millions de kilomètres. C'est néanmoins ce qu'on est en train de faire chez nous en Europe, grâce à un projet qu'on appelle LISA, c'est un joli nom, qui devrait pouvoir être lancé d'ici la première décennie du siècle prochain, et qui nous permettrait donc de, pour la première fois, avoir ce fameux Big Bang.
D'accord. Alors, maintenant, on va passer donc au dernier sujet donc de cette émission de Voyage à travers les étoiles, donc les questions diverses. Donc il est 22h40, donc ce qu'on va faire, on va consacrer 10 minutes, un quart d'heure, on va faire d'abord une pause musicale et puis on va consacrer donc les dernières minutes pour les questions diverses, et puis après on conclura l'émission ensemble. Voilà, Jean-Michel Jarre, Oxygène 4 donc à l'instant sur Radio Droite Cité 95.5 FM, c'est Voyage à travers les étoiles donc avec Franck et toujours avec nos invités donc Roger Maurice Bonnet de l'Agence Spatiale Européenne, René Curier de l'Association Française d'Astronomie, messieurs Perrier, oui, et puis Le Tessier du Club Copernic, ainsi que Stéphane Boutillier, membre du Club Copernic. Alors, on va terminer donc cette émission avec la dernière séquence, donc la dernière rubrique, c'est les questions diverses. Alors là, on peut poser des questions sur tout et n'importe quoi concernant l'astronomie, bien sûr, entre vous, dans les studios ou moi-même. Moi-même, justement, la première question que j'ai à poser, ce serait plus pour Monsieur Bonnet. Est-ce que un jour, ceux qui s'occupent des fusées et tout ça, j'ai perdu le nom, va proposer à des gens qui ne sont pas des astronomes de pouvoir faire des voyages dans l'espace?
Je pense que l'idée du tourisme spatial, puisque c'est de ça dont il s'agit en fait, elle est vraiment latente, et on attend simplement pour le faire d'avoir des engins qui ne soient pas trop chers. Car aujourd'hui, c'est quand même toute une affaire de lancer une navette ou une fusée Ariane dans l'espace. Ça, c'est pas une opération aussi banale que de faire décoller un avion. Et puis quand on fait décoller un avion, on ne le jette pas quand il arrive. Tandis qu'une fusée, même la navette, on en perd une partie quand on la lance dans l'espace. Donc ce ne sont pas des opérations qui, pour l'instant, sont très économiques. Donc on attendra d'avoir des moyens de lancement économiques. Et à ce moment-là, je crois qu'on pourra envoyer, effectivement, de façon beaucoup plus banale qu'aujourd'hui, des êtres qui ne sont pas des astronautes professionnels dans l'espace. Il faut quand même se rendre compte que voyager en apesanteur, bon, ça a des inconvénients quand même. On n'est pas tout à fait en bonne santé pendant un certain nombre d'heures, sinon de jours. Et donc, ce n'est pas une opération anodine. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient le faire. Et j'ai reçu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs la lettre d'un vieux monsieur qui me disait « Écoutez, moi, je suis à la fin de ma vie. Je n'ai plus rien à attendre. J'aimerais vraiment que vous m'emmeniez dans votre prochaine mission sur Mars. » Alors, on lui a répondu que malheureusement, il n'y en avait pas pour l'instant, mais qu'on gardait sa candidature au cas où.
C'est sympa. Parmi les membres du club, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions à poser
Oui, j'aurais voulu demander à M. Bonnet ce qu'il en était de l'envol éventuel de l'astronaute américain, le premier astronaute américain à être parti dans l'espace, John Glenn, voilà le nom me revient, je voudrais savoir ce qu'il en est du projet de le refaire partir à nouveau.
C'est un vrai projet. C'est un projet d'ailleurs qui n'est pas seulement un projet publicitaire. Je pense que c'est intéressant. Je parlais de cela il n'y a pas très longtemps avec un médecin du sport qui s'occupait d'ailleurs des footballeurs et qui me disait « Mais pourquoi est-ce qu'on fait toujours voler des gens jeunes et pas des gens âgés ?» Alors je lui ai dit qu'effectivement John Glenn allait partir incessamment sur la navette pour un vol. Il doit avoir pas loin de 80 ans, John Glenn. Peut-être les a même-t-il dépassé. Et donc, c'est intéressant de voir s'il va pouvoir résister. Je suis sûr qu'il va résister. Parce que c'est quelqu'un qui a été entraîné pour cela et qui a certainement tout le potentiel pour le faire.
D'autres questions parmi les invités? Monsieur Curier, vous avez des questions à poser?
Oui, moi, j'ai été évidemment fasciné par cette histoire de projet de détection des ondes gravitationnelles. J'imagine que ces satellites-là, ils sont envoyés très très loin dans l'espace, très au-delà de l'orbite de la Terre, en fait, aux confins du système solaire. Donc c'est une mission qui est déjà en route ou qui est un projet dans les cartons ou qui est un projet que vous voudriez voir avancer ?
Non, c'est un projet qui est déjà en route dans le sens qu'on commence à préparer les technologies, les études qui sont nécessaires à le faire partir. Donc... en fait, ces satellites seront en orbite sur l'orbite de la Terre, mais loin de la Terre. Donc, de façon à ne pas être trop gênés par les perturbations gravitationnelles de la Terre et de la Lune, qui elles-mêmes produisent des ondes ou des perturbations qui peuvent ressembler à ces ondes gravitationnelles qu'on veut détecter. C'est un projet qui pourrait, si les crédits sont là, démarrer, en fait, je crois, dès 2008-2009, être lancé en 2008-2009. On est en train de regarder quelle technologie il faut pousser pour pouvoir le rendre plus facile et moins cher.
D'autres questions, Stéphane, peut-être c'est une question à poser. Membre du club Copernic.
Oui, une petite en fait. Je voulais savoir quel genre d'études faut-il faire pour en arriver où vous êtes.
Alors, on va lui rendre le micro. Oui.
Les études pour travailler pour faire de l'astronomie ou de l'astrophysique ou travailler dans la recherche, c'est des études qui sont très longues et qui sont très difficiles. Et c'est des études qui en plus ne te garantissent pas du tout que tu auras du boulot à la sortie. Pour le dire brutalement.
Franchement.
Il faut savoir qu'à peu près, alors je compte pas les gens qui sont attachés au CNRS, qui peuvent s'occuper d'astrophysique ou d'astronautique par des biais divers, parce qu'ils sont ingénieurs, parce qu'ils sont sollicités, parce que leur boîte est sollicitée pour travailler sur un projet de l'ESA, etc. Mais qui sont directement, par exemple, astronomes professionnels. En France, il y en a 800. Donc tu vois, s'il n'y a pas énormément de place pour le faire. Par contre, je dirais que... Et donc ce sont vraiment des études très longues, assez difficiles. Je dirais qu'il n'y a aucune garantie de réussite. Le seul truc qu'il faut avoir, c'est l'ANIAC, quoi, je dirais. C'est-à-dire la seule garantie de réussite dans ce truc-là, c'est s'accrocher jusqu'au bout et y croire, quoi, croire en ce qu'on fait. Je dirais que si on ne se sent pas de rester sur les bancs de l'école ou de l'université pendant autant de temps, ce qui est tout à fait légitime. Je pense qu'on peut faire de l'astronomie son métier, son activité professionnelle, justement, et je pense qu'il y en a besoin. On parlait de la vulgarisation tout à l'heure, ouais. Parce que je pense que l'astronomie comme fête populaire, comme moyen de populariser la science, etc., a besoin de métiers nouveaux. A besoin de gens qui peuvent effectivement faire la tournée des écoles, a besoin de gens qui peuvent accueillir du public sur le terrain, qui a besoin de gens qui sachent manier un planétarium, qui sachent inventer des nouveaux concepts. Après tout, pourquoi continuer à faire avec un planétarium? On peut peut-être inventer des tas d'autres choses. Hein, les images de synthèse, etc., permettent aujourd'hui des tas de choses nouvelles. Tout un tas de gens, ingénieurs, techniciens, animateurs, enseignants au sens général du terme, formateurs, qui seraient là pour faire un lien qui manque peut-être encore un peu aujourd'hui entre l'astronomie royale et l'astronomie populaire. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aujourd'hui se développer, qui devrait se développer, et sur lequel je crois qu'on peut parier aujourd'hui.
Il y a un membre qui n'a pas posé de question encore, ce monsieur Le Tessier.
C'est vrai, pour répondre justement à ce que monsieur Curienne vient de dire, là, c'est vrai qu'il y a un potentiel énorme de demandes, que ce soit de la part des enfants et aussi du public. C'est fou le nombre de questions que, ne serait-ce que dans les petites réunions que l'on fait, ou alors les portes ouvertes que l'on fait lors de l'inauguration de n'importe quelle chose, sur l'astronomie naturellement. Il y a un potentiel énorme de demandes du public, et je crois là il y a une lacune énorme à combler, parce que je crois qu'il faut justement trouver des jeunes justement qui prennent le relais et qui répondent à ces questions-là. Parce que moi je trouve toujours qu'il y a toujours des demandes formidables, formidables, formidables. Et je crois qu'il faut arriver à trouver ça, quoi, à trouver des jeunes qui puissent répondre à ces questions-là.
Vulgarisation d'astronomie, donc. D'autres questions, je ne sais pas, parmi vous? Personne,
Je voulais poser aussi une question, oui, à M. Bonnet. Il y a 2 ans, j'ai été invité par M. Biro au radiotélescope de Nancy. Je voudrais savoir ce qu'il en est à Nancy, si ça continue toujours. Je sais qu'ils étaient en relation avec Racibio, avec le...
Oui, je ne suis pas au courant des derniers développements, mais enfin, bon, c'est une facilité, comme on dit, importante, le radiotélescope de Nancy. C'est un outil tout à fait... essentiel dans l'étude de notre univers. Il y a un radiohéliographe aussi qui regarde le Soleil, qui est un outil tout à fait complémentaire des outils que l'on a soit dans les observatoires, soit dans l'espace. Donc l'observatoire de Nancy est un observatoire qui est toujours actif. Mais ça nous amène à nous poser une autre question qui est peut-être plus vaste et peut-être un peu moins drôle, c'est qu'aujourd'hui, la radioastronomie, qui est le domaine donc, qui fait travailler les astronomes à Nancy, cette radioastronomie devient de plus en plus difficile sur Terre, parce que rien que le fait que nous parlions dans ce micro, déjà, est un handicap pour les astronomes. C'est curieux. Hein. On parle de l'astronomie et en faisant ça, on les gêne. Bon, j'exagère un petit peu, mais tous les téléphones portables, toutes les chaînes de télévision, les transmissions de télécommunications par satellite font que la Terre est devenue plusieurs milliers de fois plus brillante dans ce domaine de longueur d'onde depuis la fin de la guerre qu'elle ne l'était à ce moment-là. Et donc les radioastronomes se posent la question de savoir comment ils vont pouvoir continuer à regarder ce qui est si important de regarder, en particulier les raies de l'hydrogène, les raies des molécules, en particulier les molécules qui sont proches de l'eau dans l'univers, comment vont-ils pouvoir le faire? Il y a une réponse à cela, c'est qu'il y a un endroit parfaitement idéal pour le faire, mais pas facile d'accès. C'est la face cachée de la Lune, celle qu'on ne voit jamais justement, celle, l'autre. Et c'est pour cette raison-là que on a engagé il y a quelques années une étude pour voir si on pouvait en effet de façon rentable utiliser cette face cachée de la Lune pour faire de la radioastronomie. Et c'est certainement un très bon endroit. On n'a pas la Terre dans le champ puisqu'elle est de l'autre côté et qu'elle masque toutes les émissions parasites. Donc sans doute au XXIe siècle, il y aura un observatoire de Nancy sur la Lune.
Encore une bonne raison d'y retourner.
Lunaire, voilà. Bien, eh bien, je regarde ma montre, malheureusement, ça, le temps a passé quand même vite, c'est dommage que, même les bonnes choses ont une fin. Donc, on va conclure cette émission, mais avant, on va faire un tour de table pour le dernier mot de chacun. Bon, je vais commencer par ma gauche, je vais commencer par monsieur Le Tessier.
À sa gauche, oui.
Oui, à ma gauche, oui, pardon.
D'accord. Oui, bah, j'invite tous les passionnés du ciel à, naturellement à venir au Club Copernic, naturellement, c'était le moment idéal d'en parler, je crois. L'adresse, bah, apparemment, comme ça, en général, quand on nous demande, on nous pose une question un peu le pourquoi, on ne sait jamais, on ne se rappelle plus de l'adresse, mais je crois qu'en s'adressant à l'animateur de Radio Cité, je crois qu'il donnera l'adresse.
L'adresse alors, du club,
tous au club.
L'adresse du club ?
Ah oui ?
Oui, l'adresse du club, ça se trouve à Vert, donc c'est rue des Groux, à Vert. Juste. Voilà. Monsieur Jean-Pierre Perrier.
Bon, bien, pour prolonger ce que Serge a dit, et si on se réfère à ce qu'a dit Monsieur Bonnet a évoqué tous les enseignements que l'on tire des observations des satellites qui sont placés en orbite. Moi, je dirais que ben, nous sommes encore au ras des pâquerettes et que donc nous invitons tous les jeunes et les moins jeunes à venir observer depuis notre observatoire à Vert. Et ben, ils s'apercevront qu'avec leurs yeux, avec effectivement une très bonne paire de jumelles, voire avec les télescopes que nous mettrons à leur disposition, ils découvriront des choses superbes.
Exactement. Monsieur René Curier ?
Moi, je commencerai par inviter tous les auditeurs, effectivement, à aller au Club Copernic. C'est la première chose. Je pense qu'effectivement...
à la fin.
Oui, mais c'est pas pour ça. Je le savais pas, en plus, je vous avouerai. Non, parce qu'effectivement, je pense que ça vaut le coup de rêver en écoutant une émission de radio. D'ailleurs, je remercie Franck d'avoir organisé cette émission. Je pense que c'est effectivement, comme le disait M. Bonnet tout à l'heure, c'est un vrai pari d'avoir fait ça, donc c'est très bien. Voilà, et je pense qu'à part écouter la radio, il y a aussi des choses à faire en astronomie, à part rêver en écoutant des gens qui vous racontent plein de choses. Vous pouvez aller voir par vous-même, le Club Copernic est un endroit pas très loin de chez vous pour le
et
faire.
Et on peut rigoler quand même ouais, si on a l'air très très sérieux.
Et la deuxième chose, c'est que je donnerai peut-être... rendez-vous à tout le monde pour le 11 août 1999,
oui.
Parce que si un moment où il s'agira de faire la fête, je vous garantis que quand on voit une éclipse totale de soleil, la première chose qu'on a envie de faire immédiatement après, c'est de parler à son voisin pour être sûr qu'on n'a pas rêvé,
oui.
Et même si on ne le connaît pas, même si on ne lui a jamais parlé avant. Et la deuxième chose, c'est faire une sacrée fête. Et ouais. Je pense qu'on peut se donner rendez-vous pour dans 14 mois maintenant.
Et Radio Droite Cité courira l'événement, bien sûr. Stéphane Bouteiller.
Bah, je pense tout simplement que cette émission est astronomique. J'ai rien d'autre à dire.
Merci. Monsieur Roger Maurice Bonnet.
Bon, moi d'abord, je voudrais dire à quel point je suis impressionné que vous ayez, vous, monsieur Franck Menant, conduit cette émission pendant 3 heures, aussi bien que vous l'avez fait. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont eu à la fois le courage, la patience ou l'intérêt de nous écouter, de l'avoir fait. Je suis venu ici parce que j'avais un intérêt particulier à venir dans un endroit qui a une réputation sensible, comme on dit. Et j'ai toujours pensé qu'il valait mieux regarder les étoiles que de s'adonner à des activités violentes, qu'elles soient entre les amis ou les non-amis dans les régions dites sensibles. Et j'avoue que votre initiative ici est tout à fait encourageante. Je crois qu'il est essentiel que des initiatives comme celle-ci soient conduites. L'astronomie, c'est une science où on peut recréer des cellules amicales, que ce soit dans les planétariums, que ce soit autour d'une lunette dans une nuit étoilée, que ce soit à visiter un centre spatial. Vous avez pas loin d'ici des muraux. Je pense qu'on peut aller les visiter facilement, voir comment on fait les fusées Ariane. Moi, je serais prêt à accueillir plusieurs d'entre vous en Hollande, dans notre centre technique, où vous verriez des satellites d'être testés, en voie de test. Tout cela, c'est à mon avis tout à fait important pour vous rendre compte à tous que cette activité-là, même si elle peut paraître un peu superflue, en fait des propriétés tout à fait intéressantes, pacifiques, et qui peuvent rehausser la nature humaine. Et donc je vous invite tous effectivement non seulement au Club Copernic, mais à regarder le ciel et à y voir beaucoup plus que des étoiles, un message d'interrogation permanente.
Merci. Quant à moi, bien, je vais passer aux remerciements. Je voudrais d'abord vous remercier tous d'avoir été présents ici ce soir dans les studios, aussi bien M. Bonnet, M. Curier, les membres du Club Copernic, M. Simon Vermeer qui a accompagné M. Bonnet. Je voudrais remercier aussi tous les auditeurs qui ont suivi l'émission ce soir. Je voudrais faire un remerciement aussi à M. Curier qui m'a beaucoup aidé dans cette préparation d'émission. Quand je l'ai rencontré à Paris. Je voudrais aussi remercier la direction de Radio Droit de Cité qui m'a permis de faire cette émission et qui eux aussi m'ont beaucoup aidé dans cette préparation d'émission. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres, d'autres émissions de ce genre. Et puis mon message à moi, c'est regardez le ciel et puis vive l'astronomie et puis venez vous inscrire au Club Copernic. Voilà. Pour terminer, je vous donne rendez-vous donc mercredi de 14h à 16h pour l'émission C'est la pêche. Merci à vous tous d'être présents ici ce soir et on se quitte avec Méloman Respire.